Et bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve ce soir avec Kevzor et avec Rekoba pour débriefer cette victoire face à l'Olympique de Marseille, une victoire qui fait plaisir dans le contenu tant que dans le score. Justement, les gars, avant qu'on lance les grands titres de ce live et qu'on donne un peu, qu'on réponde aux questions et tout ce qui va avec comme d'habitude, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de ce match et qu'est-ce qui vous a plu dans ce match. On va faire hors des caméras, Kevzor, je te laisse commencer.
Tout, honnêtement, tout déjà une victoire où tu kiffes devant ton match, où dès le début tu sens que tu vois, voilà, Luis Enrique l'a dit en début de saison. Moi je veux gagner mes matchs, je préfère gagner un match 5 à 4 qu'un match 1-0. Aujourd'hui, tu avais un plan de jeu très très offensif. Certains commençaient à se faire caca dessus, encore une fois, les plus pessimistes, etc. Mais concrètement, moi j'ai trop kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé de A à Z. Tu as senti des joueurs impliqués, tu as senti des joueurs qui veulent asphyxier un OM, tu as senti des joueurs qui veulent vraiment asseoir leur domination sur ce match. À un moment donné, juste après le premier but, pendant 5 à 6 minutes, Mbappé se fait soigner. Tu as l'impression que c'est l'OM qui a 10 contre 11. Concrètement, c'est incroyable. Oh, je ne pourrais même pas donner un seul joueur qui a été en dessous, même si certains joueurs étaient meilleurs que d'autres. Franchement, quel kiff. Quel kiff. Et je pense que la meilleure recrue de cet été, c'est Luis Enrique, franchement, qui même à 4-0, à la 91e, continue d'haranguer ses joueurs, etc. etc. Franchement, ça me fait tellement plaisir de voir ce PSG-là à chaque fois qu'un match est terminé, je suis impatient d'avoir le match suivant, parce que même contre Nice, quand tu perds 3-2, tu as senti quand même un groupe solidaire, des points positifs. Putain, franchement, quel bonheur de les voir, les accolades, les sourires sur le terrain, à la fin quand ils chantent avec le cup, que tu as les joueurs, les jeunes ramasseurs de balles là, qui ont entre 8 et 15 ans, qui sont au milieu des joueurs, qui font des calades. Enfin, franchement, c'est un pur bonheur, je kiffe. En ce moment, c'est un pur plaisir, une semaine parfaite. 2-0 Dortmund, 4-0 au Parc contre l'OM et deux clean sheets d'affilée, ça faisait longtemps, parce que mis à part la barre de Vitinha, Donnarumma n'a rien à faire du match. Dortmund, c'est pareil. Mention spéciale à Marquinhos qui nous tient cette défense qui est monstrueuse aussi. Et voilà, je kiffe. C'est un pur plaisir.
Rico ?
Ouais, alors déjà, je pense qu'on était serein déjà avant ce match. Au-delà du PSG, bon, Marseille, c'est vrai que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Donc, c'était l'adversaire, on va dire, parfait pour qu'on les explose, comme Dortmund qui n'était pas très bien et qui a eu beaucoup de mal, notamment dans les sorties de balles. Mais ça, on en reparlera pour Marseille. Mais donc, je pense qu'on était déjà plutôt serein tous avant ce Classico. On le sentait plutôt bien. Et de toute manière, quand on voit l'intensité que met Luis Enrique depuis le début qu'il est arrivé, que ce soit aux entraînements, que ce soit dans ses discours, etc., tu sentais que le Paris Saint-Germain allait arriver aujourd'hui comme contre Dortmund, mais encore pire parce que c'est Marseille, parce que c'est son premier classico et qu'il parle souvent des supporters. D'ailleurs, on le voit, des fois, il force même un peu, mais tu vois qu'il avait envie de régaler tout le monde et de faire plaisir aux supporters. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu une belle copie. Et puis même avec le tifo dans les tribunes au début à l'entrée des joueurs, le tifo il était grandiose. Je sais pas si on a vu meilleur tifo. Franchement, il était vraiment très très beau dans tout le stade comme ça, c'était magnifique. J'ai vraiment kiffé.
C'est un scandale, Rico, que Amazon etc. ne diffuse pas ce genre d'image ou que très peu, parce que franchement, on peut même pas en profiter concrètement.
Ouais, c'est clair, mais vraiment magnifique. Et puis après sur le match, c'était un match un peu comme celui de Dortmund où on a vraiment asphyxié notre adversaire qui a eu du mal à ressortir le ballon. On a vu tout le monde impliqué. On a vu des systèmes, on va reparler, hein, je pense, au fur et à mesure, le système, ce qu'on a pu voir, etc., l'influence aussi d'Hakimi, ce qui change par rapport à l'année dernière et tout. Mais on a vu une équipe concernée, des joueurs concernés qui avaient envie de bien faire tous ensemble. On a vu une vraie équipe à la perte du ballon, avec le ballon. Et globalement, Marseille n'a rien fait du match. Didier n'a rien eu à faire. Et on a déroulé, même quand Mbappé n'était plus là. On marque 4 buts, on continue à jouer, il n'y a finalement rien qui a changé, alors que par rapport à l'année dernière, quand on perd un Neymar, quand on perd un Mbappé, quand on perd un Messi, on voit que il n'y a plus grand chose, et notamment surtout Mbappé. Et là, on a perdu Mbappé, on n'a vu aucun changement. Donc ça prouve que ton collectif il est très fort, et que même les futurs matchs, s'il n'y a pas Mbappé, on s'en sortira quand même en Ligue des Champions.
Alors justement, déjà merci à Swapper pour ta fidélité déjà de regarder les matchs et les débriefs avec régularité. Merci pour ton don. Encore un but pour le Paris Saint-Germain ce soir. J'ai vu aussi un commentaire qui s'excusait auprès de Rekoba pour Hakimi avec la référence de Fred Hermel. J'ai bien aimé la référence. Mais moi, en ce qui me concerne, dans les choses que j'ai bien aimé dans ce match et qui n'ont pas été forcément évoquées, parce que chacun évoque aussi ce qu'il voit dans le match, on peut pas tout dire d'un coup, faut en laisser un peu pour les autres. J'ai beaucoup aimé la palette de Manuel Ugarte ce soir, qui vraiment a été bon dans tous les compartiments du jeu. Sans le ballon, c'est un chien. Et encore, je préfère être coursé par un chien que par Manuel Ugarte. Parce que le chien, il peut être raisonné. Manuel Ugarte comprend pas encore le français. Donc bonne chance à toi si tu courses. Mais non, j'ai beaucoup aimé aussi son jeu avec le ballon, les changements d'aile complets, où il fait une passe, une transversale à 50 mètres, où il s'est pris pour Xavi Hernandez ou Xabi Alonso, je sais pas qui habitait dans sa tête à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé le match d'Achraf Hakimi aussi, où tu as l'impression que bah, tu retrouves la meilleure version de Hakimi en fait depuis deux matchs avec Dortmund. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé dans ce match. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on est de plus en plus nombreux dans les podcasts. Si on peut avoir les likes qui vont avec, ce serait encore mieux les mecs. Comme ça, on peut développer au mieux ces podcasts. Mais oui, il y a eu des entrées intéressantes aussi à souligner. Il y a eu d'autres joueurs. Mais j'ai évité de faire le top et flop avant même qu'on en parle dans les choses qui m'ont plu dans ce match. Et pour commencer dans les grands titres, justement, j'allais vous demander un PSG qui est en progression. Est-ce que bah, jusqu'à où peut progresser ce PSG en fait, malgré les limites qu'on peut apercevoir lors de la fin du mercato? On se plaignait du manque d'un milieu à profil offensif, un peu meneur de jeu. Et finalement, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un réel manque actuel? Est-ce que ce PSG peut progresser? Je vous laisse développer là-dessus, les gars.
Bah, du coup, de
Vas-y,
toute façon,
Kaiser,
chaque
même
match,
ordre.
on peut toujours progresser. Même si on fait un excellent match, il y a toujours une base de progrès. En fait, ce que je kiffe déjà, c'est que dans la façon dont Luis Enrique a animé cette équipe aujourd'hui en 4-2-4, j'ai l'impression de voir un petit peu le Guardiola de l'année dernière avec Manchester City, c'est-à-dire les trois défenseurs qui restent quand même en place devant la défense, avec toujours deux tours de contrôle qui étaient Stones et Rodri en l'occurrence. Et derrière, tu as quatre dynamiteurs devant qui à tout moment peuvent faire des différences, peuvent marquer des buts, peuvent combiner, peuvent prendre la profondeur, peuvent décrocher. Et concrètement, voilà, donc on peut encore avoir une base de progrès parce que c'est vrai que malgré tout, jusqu'au second but, on avait quand même, mis à part Barcola, nos trois joueurs offensifs qui étaient relativement très discrets. Donc je trouve que c'était quand même. Voilà, on peut mieux faire. Je trouve que même si Mbappé se fait mal, je pense que ça l'a un peu gêné et c'est pour ça qu'il est sorti. Kolo Muani était discret. Dembélé avait quand même pas mal de déchets, même s'il était souvent trouvé, il libérait beaucoup d'espace sans ballon pour Hakimi. Mais on a été discret. Je pense qu'aussi, on a eu deux, trois phases de jeu, notamment sur le centre de Clauss pour Vitinha, où on se fait prendre dans notre dos et où, par exemple, Barcola, par naïveté, se fait prendre dans son dos alors qu'un joueur est face au jeu et on doit gérer la profondeur. Il y a quelques manques sur cette gestion de profondeur et sur les espaces interlignes qu'on a laissés entre nos deux milieux de terrain et nos trois défenseurs qui ont permis deux, trois fois à trouver un joueur libre entre ces lignes. Donc, il y a toujours, de toute façon, je te garantis que connaissant un petit peu la méthodologie de Luis Enrique, dès ce soir, il va re-regarder le match avec son staff. Et demain, ils vont commencer déjà à travailler au niveau de la vidéo sur ce qui est amélioré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, match après match, même contre Nice, où on fait pas un bon match, où on a fait quelques changements, etc., on voit qu'il y a du progrès. On voit qu'il y a beaucoup de progrès. Et encore une fois, j'insiste que les joueurs sont pleinement investis et répondent aux messages transmis par le coach. Où depuis 2, 3 ans, on voyait que ce message-là n'était pas acquis. N'étaient pas, enfin, ils n'étaient pas réceptifs. Et là, honnêtement, je le redis, franchement, moi, je pense honnêtement qu'on va pas avoir 4-5 bons mois au PSG. Cette équipe-là va forcément avoir des méformes, va forcément perdre des matchs. Mais quand on va perdre des matchs, on va kiffer quand même. Je vous le dis parce que ça fait 2-3 ans qu'on gagne des matchs, mais qu'on se fait chier. Mais là, tu vois, contre Nice, moi, j'étais énervé parce que voilà, hein, mais tu as quand même vu un bon match de football. Et c'est ça qui est hyper important et qui va nous plaire.
Ouais, bah, il y a pas mal de choses à dire. Le truc, c'est que, ouais, on voit de l'amélioration, mais on voit aussi de la variété. On voit qu'il arrive souvent à s'adapter à ses adversaires. Les compos changent, les joueurs changent. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qu'on revoit souvent, mais tout en s'adaptant à l'adversaire, tout en trouvant différentes variations. Donc, ça, c'est important parce que plus on va s'améliorer là-dessus et plus on va pouvoir s'adapter à plusieurs adversaires différents. Et à réussir à trouver des solutions qui vont être importantes, surtout en Ligue des Champions. Là où on va devoir quand même s'améliorer, c'est être capable d'asphyxier justement des plus gros adversaires, parce qu'on a vu que face à Nice, ça a été compliqué un petit peu. Alors après, ça se met en place. Dortmund, on a réussi. Marseille, on a réussi. Mais avec des équipes qui auront une plus grosse qualité technique au milieu ou dans la relance, Est-ce qu'on sera capable de vraiment les asphyxier? Ça, ce sera différent, un Bayern, un City ou un autre. Et c'est là où on va devoir progresser et surtout être un peu plus, on va dire, décisif, un peu plus tueur devant. Parce que bon, là, on a été assez chirurgical quand même. On ne fait pas une masse de tirs et on a été quand même très, très, très bon dans la finition. Mais y a eu quand même beaucoup d'actions qu'on doit mieux jouer avec Dembélé, avec Barcola, même des fois avec Kolo Muani. Et c'est important de marquer un peu plus tôt aussi, se mettre, mettre ces actions-là, parce que face aux grosses équipes, tu en auras peut-être un peu moins, tu auras moins de coups à jouer. Et c'est important peut-être de finir un peu mieux. J'ai vu à la mi-temps les momentum qu'il y avait entre Paris et Marseille. Tu vois que le nombre de momentum du PSG à haute intensité sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supérieurs. Et c'est tous ces momentum-là, on doit mieux les jouer. Et ça a fini très rarement par des frappes. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il va falloir être quand même un peu meilleur devant. Mais là, on a quand même été très bon. Après, l'OM, c'est compliqué. On a eu un adversaire quand même qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et face à un adversaire qui ressort mieux, qui nous fait déjouer et tout, il faudra voir comment on arrive à s'adapter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de variété. Il va y avoir le retour de Nuno Mendes aussi. On voit qu'il y a quand même un système à trois défenseurs centraux avec un Hakimi axial. Je pense qu'on va en reparler quand on parlera d'Hakimi. Mais on voit vraiment un 3-3, un 3-3-4 quoi, sur le terrain. Avec même un Barcola qui défend bien, qui est limite piston gauche. Il faudra voir aussi au retour de Nuno Mendes ce qui va se passer. Mais c'est franchement, c'est hyper alléchant ce qui se passe. Et effectivement, je suis d'accord avec Kevzor, la meilleure recrue, c'est Luis Enrique. Et quand tu as un entraîneur de renom comme ça qui sait ce qu'il fait, bah, tout le monde tire dans le même sens et forcément, t'envoies les fruits et tu es heureux, tout simplement.
Je vois aussi beaucoup de questions sur Manuel Ugarte, donc je me suis amusé à aller chercher quand même la statistique sur ce qu'il a fait sur ce match. 13 duels, 10 gagnés.
Non mais Ugarte, c'est phénoménal, mais le pire c'est qu'on parlait avant de ces duels gagnés, etc., défensivement et tout, on était rassurés, machin, mais il y a certains, ils le prenaient pour un joueur de Ligue 2, balle au pied, alors que techniquement c'est quand même très fort,
on a encore vu
les sorties de balles, que ce soit ses passes, et même par les courses, comment ils transpercent le milieu, etc., c'est monstrueux.
Ah mais tu vois, en fait, moi, y a un truc qui me choque, c'est que tu vois que tout est travaillé à l'entraînement. Au niveau des ressorties de balles, tu sens que tout est travaillé en fonction du système adverse, en fonction de la pression qu'ils vont venir te mettre, etc. Et Ugarte joue très juste. Moi, honnêtement, j'étais le premier à dire, tu vois, ça a l'air d'être un bon joueur défensivement. Mais c'est vrai que sur les deux premiers matchs, amicaux, bien sûr, face à des oppositions assez faibles, j'avais trouvé très limité techniquement. J'étais en train de dire, putain, ça fait chier quand même, parce que même si on ne veut pas parler de tarifs, un joueur à 60 millions doit d'entrée te prouver, tu vois, te montrer certaines choses. Et sur le moment, tu sais, je me disais, putain, j'espère que voilà. Et puis, oh, concrètement, moi, il me bluffe. Et je voulais aussi dire quelque chose qui aujourd'hui a permis d'avoir un match d'une telle intensité, etc. Mention spéciale à l'arbitrage qui a vraiment beaucoup laissé jouer. Qui a fait un très bon arbitrage, parce que les petites Marseillaises se plaignent qu'il n'y a pas faute sur Mbappé, enfin, ils sortent sur blessure, il y a faute 100 fois, enfin, faut m'expliquer d'où, parce qu'il ne maîtrise pas son contrôle, on ne peut pas faire faute, mais bon bref, on n'en est pas là. Mais je trouve que l'arbitrage a été très très cohérent, parce qu'il a laissé beaucoup d'actions se jouer, il a laissé beaucoup d'avantages. Moi je trouve que faut le souligner, tu vois, c'est rare que je dise quelque chose dans ce sens au niveau des arbitrages, mais... Ça a été dans le sens du football que les deux équipes, entre guillemets, ont mis.
Alors justement, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, mais comme d'hab, on y répondra après. Maintenant qu'on a abordé ces deux petits points rapidement, pour qu'on aille vite, pour aller rapidement dans les questions-réponses du chat, je vous propose qu'on aille dans les tops et flops de cette rencontre. Je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. On pourra mettre une petite mention ou deux, parce que ça va être compliqué de claquer que trois tops dans ce match. Les flops, ça va être compliqué à trouver en revanche. Mais bon, allez, on va cesser à l'exercice. Kevzor, je te laisse commencer. Même dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas.
Honnêtement, c'est très difficile. Après, en top, tu dois sortir trois joueurs qui sortent du lot. Pour moi, déjà, tu as Hakimi et de très loin. Hein, honnêtement, moi, j'ai été un grand défenseur d'Hakimi depuis qu'il est arrivé au PSG. On l'a pas mis dans les meilleures conditions, mais on va pas se mentir, Hakimi, ce soir, nous sort un top match. Il nous sort un top match, c'est incroyable, mais... La qualité qu'il a, le nombre de ballons qu'il récupère aussi, parce que tout le monde voit que l'aspect offensif. Mais regardez-moi les courses à haute intensité qu'il fait défensivement pour récupérer quelques ballons. Je vous garantis que c'est incroyable. J'ai trouvé... après, je ne pourrais pas le mettre en top, mais j'ai été dans une propagande pendant 2 mois sur Barcola. Il a fait danser la bachata à Jonathan Clauss. Ça me faisait tellement rigoler à chaque fois que je voyais Barcola le travailler en un contre un. C'était kiffant tellement. Je kiffe ce jeune joueur qui a tellement de qualité, qui sur sa première titularisation cette saison dans un classico où tout le monde est attendu parce que voilà, dernièrement, on s'est un peu fait chahuter dans les classicos. Et bien, il répond présent, défensivement, il est dans le tempo. Franchement, top, top. Ugarte, on n'en parle plus, on en a déjà parlé. Et vraiment, je vais donner une mention spéciale aussi, parce que pour moi, les 11 joueurs ont été excellents. À Marquinhos, qui a été très souvent mis dans le même panier que certains indésirables qui ont été jetés dehors par le club, qu'on a traité de lâche, de ci, de ça. Donc, c'est vrai que il a eu quelques paroles l'année dernière qui sont un peu déplacées. Enfin, sûrement maladroites, je pense, parce que c'est quelqu'un qui aime le club, qui est vraiment investi pour cette équipe. Mais force est de constater qu'il y a un PSG avec, il y a un PSG sans Marquinhos cette saison. Il a été encore ce soir, mais excellent. Il a fait des montées balles au pied, il s'est retrouvé à les presser dans la surface adverse. Franchement, moi, je kiffe ce Marquinhos-là. Je pense que le coach lui donne une confiance aveugle et on sent clairement que ça change clairement la donne à ce PSG. Que Marquinhos, j'adore. Et je vais mettre un petit flop. C'est la sortie sur blessure de Mbappé qui, je l'espère, sera pas trop grave. Même si depuis le début de saison, c'est au niveau stats, c'est un grand Mbappé, mais bon, je pense que le fait qu'il n'ait pas fait de préparation, il est un petit peu en difficulté physiquement, ça se ressent sur ses courses, etc., etc. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Mais après, hein, je vais remettre un dernier top, c'est Luis Enrique, les gars, c'est
D'habitude, t'as du mal à
tactique.
mettre trois tops, là, faut t'arrêter. Hein. Là,
Ouais, faut que je m'arrête, je te laisse la parole,
mais
mais
tu peux mettre des mentions, tu peux tricher. En général,
ouais,
on se met
franchement.
une ou deux petites mentions, ça nous évite de mettre cinq tops, mais t'inquiète,
Ouais,
t'as
non, mais
droit aux
là,
mentions.
j'ai tellement kiffé, je suis dans l'euphorie de ce match, même si, comme certains le disent, on ne dirait pas au niveau de l'expression de mon visage, mais je kiffe, honnêtement, je kiffe.
D'habitude, faut limite te pousser pour que tu sortes un troisième top.
Non,
Là, il a
non, j'ai
fallu limite
kiffé.
t'arrêter, là.
J'ai kiffé, franchement, je
Bah, tant
laisse
mieux.
la parole à Réco.
Alors oui, top. Déjà, forcément, Hakimi. Alors, juste pour Mbappé, ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et après, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'il me semble que l'année dernière, c'est un peu la même chose. Mbappé statait pas mal, mais dans le jeu, dans le contenu et tout, on n'était pas forcément satisfait. Il ratait beaucoup d'occasions. Et c'est un peu la même chose cette saison. Il force beaucoup. Donc, je pense que voilà, après, dans le rythme de la saison, les gros matchs vont arriver. Et si et ça, il sera un peu mieux. Je pense que ça ira. Mais l'année dernière, je crois que c'était un peu ça aussi. Donc, mon premier top, du coup, ce sera Achraf Hakimi, évidemment, homme du match pour moi. Et bon, il y en a beaucoup qui savent que j'ai tapé dessus. Et à raison, parce que vous voyez bien ce qu'il est capable de faire. Donc, à un moment donné, quand il nous pondait les matchs, alors évidemment, il y avait des circonstances atténuantes. Évidemment, avec Christophe Galtier, c'est compliqué. Évidemment, quand tu es boycotté sur le terrain, ou même que tu sais pas quoi faire ou te placer et quoi faire, évidemment que c'est compliqué. Mais tu dois faire plus. Et quand tu as les qualités d'Hakimi qu'on voit là et qu'on connaît tous, ben voilà, c'est bien sûr que j'attendais plus d'Achraf Hakimi. Donc ouais, non, son match, il est exceptionnel. Défensivement, il est impassable. Sur le terrain, il est imbougeable. Il fait énormément de courses. Offensivement, il a été monstrueux. Il te met un coup franc magnifique. Il t'apporte plusieurs occasions, même face à Dortmund. Donc non, franchement, c'est hyper, hyper cool de le revoir à ce niveau. Et avec Dembélé à droite, ils s'entendent à merveille parce qu'on a un Dembélé qui colle vraiment la ligne et qui a vraiment cette consigne-là de coller la ligne, d'étirer le bloc. Et on a Hakimi qui en profite dans le milieu avec un bloc étiré, avec plus d'espace. Il peut se projeter, il peut trouver des solutions. Et avec la qualité qu'il a balle au pied, c'est hyper intéressant. Et même sa qualité de frappe de loin. Donc je pense que ça va faire très mal si on arrive à continuer à combiner comme ça sur le côté droit. Surtout qu'on sait que le côté gauche, on penche beaucoup côté gauche au PSG avec Mbappé. Et même avec le retour de Nuno, on aura un côté quand même très fort. Donc c'est bien si on peut avoir un côté droit hyper fort. Parce que dans les grands matchs, si on se fait bloquer vraiment ce côté gauche et que derrière on est sans solution, c'est un peu dommage. Là, si on peut avoir les deux côtés, franchement, c'est quand même très, très intéressant. Donc voilà, franchement, très content pour Hakimi. Et puis le deuxième, évidemment, ça va être Ugarte, mais comme depuis le début de la saison, j'ai pas envie d'épiloguer. Mais je pense que voilà, il y en a beaucoup qui ont vu que c'était pas seulement quelqu'un qui récupère des ballons. Techniquement, c'est fort. Dans les sorties de balles, c'est très simple, mais toujours très juste. Balle au pied, il sait se projeter. Voilà, je pense qu'Ugarte, on est tous sous le charme depuis le début. Et le troisième, vu que Kevzor a fait mention de Marquinhos, j'en parlerai pas parce que moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je vais faire une petite mention pour. Enfin, je vais choisir Gonçalo Ramos parce qu'il rentre dans un match où ben, Colomwani a été préféré à lui, même contre Dortmund. Il rentre dans un match où il n'est pas censé rentrer aussi vite. Il s'est pas échauffé ni rien. Et au final, il claque deux buts. Il a pas mal couru. Le but, le premier but qu'il met, on peut parler d'une belle passe de Dembélé, mais on peut parler de la tête qu'il met. Elle est exceptionnelle. Aller la chercher comme ça, la claquer avec rebond, passer devant et marquer. Je pense qu'on a tous vu Pedro Miguel Pauleta sur cette action-là. Donc, ouais, moi, ça m'a fait lever de mon canapé. Et ouais, je suis super content pour lui. Mais un doublé au final, tu vois que devant le but, c'est quand même chirurgical. Et c'est important d'avoir un neuf comme ça qui est capable de claquer beaucoup de buts, parce que Colomwani, c'est quand même un peu différent dans le profil. Il t'apporte des choses différentes et tu vois que tu as une vraie variété devant pour une fois. Et Luis Enrique utilise tout ça à merveille pour l'instant. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais c'est super en tout cas d'avoir tout ça. Et si je peux mettre une petite mention, bah, évidemment, ce sera à Luis Enrique pour tout le travail qu'il fait. Et après, il y a eu bien d'autres joueurs hein, qui ont performé, évidemment, comme Barcola et autres. Mais voilà, malheureusement, on peut en choisir que trois. Et dans mes flops, perso, je ne vois pas qui a été en dessous. Je n'ai pas forcément envie d'en mettre un.
Alors, il y a une question qui est intéressante à laquelle je vais répondre avant de répondre au top et flop. Déjà, ouais, Swapper, déjà, merci encore pour le don. Et ouais, ta question est intéressante. Que faire avec Mbappé? Parce qu'il n'a pas prolongé et on ne parle pas de prolongation. Et est-ce que ce PSG ne tourne pas mieux sans? Mais ça, c'est un autre débat, on l'aura plus tard. C'est trop tôt pour le faire sur un match. Val également aussi qui nous dit, vous pensez quoi de la tactique improbable de Lucho avec Barcola qui était censé être un milieu de terrain et qui s'est complètement...
C'était les médias qui l'ont annoncé, oui. Milieu de terrain, t'inquiète pas que
c'était travaillé. Mais c'est un 4-2-4 et on a bien vu qu'il était bien excentré à gauche comme Dembélé était à droite et Colo et Mbappé étaient dans l'axe. Mais j'ai préféré la doublette Ramos-Colo à la doublette Colo-Mbappé personnellement. Pour mes tops et flops, concernant mes tops... je vais pas être hyper original, mais à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler un chat un chat. Moi, personnellement, je mets Ugarte. Ben, match après match, il nous montre à quel point il est indispensable du côté du PSG. On arrive en plus à avoir une palette qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'on vantait ses qualités sans ballon et on peut maintenant se mettre de plus en plus à vanter ses qualités avec le ballon. Depuis l'an dernier, je faisais un cheval de bataille sur le fait qu'il fallait qu'on recrute un 6. Et là, en tout cas, bah, quand on voit l'apport de Ugarte dans cette équipe, ben, je sais pourquoi j'ai fait cette propagande de 6 et je suis bien content qu'on en ait un de ce niveau-là. Au niveau des deux autres tops, ça va être compliqué. J'ai beaucoup... Ah si, allez, je vais faire plaisir à Nyx. Il m'a parlé de train et même si je ne suis pas à la SNCF, on va parler de train quand même. J'ai bien aimé le match de Randall sur l'aile. Surtout sur l'aile avec la complémentarité avec Ramos, comme je disais. Plus que dans la complémentarité avec Mbappé. D'ailleurs, bah, il se trouve que Randall a fait une passe décisive pour Ramos, d'ailleurs, assez intéressante sur un contre. Donc, j'ai bien aimé, justement, ce côté de Colomwani. Et en dernier top, y a de la place. Il y a de la place, mais je vais mettre Hakimi, hein, logiquement. Hein, je veux dire, de la même manière qu'avec Ugarte, il faut appeler un chat un chat. J'ai l'impression que, justement, on récupère la meilleure version de Hakimi depuis deux matchs. Et si ça peut continuer comme ça, ben, c'est avec grand plaisir que je signe tout de suite. Et ma petite mention... pour ne pas mettre de quatrième top et tricher un petit peu comme on fait à chaque fois dans cette émission. Ben, ma petite mention, elle va pour Ousmane Dembélé dans le sens où on lui reproche de ne pas stater depuis plusieurs matchs et c'est une remarque qui était légitime quand on sait l'apport que peut avoir Ousmane Dembélé dans cette équipe. Et je le disais que justement, il y avait cette tendance où malheureusement, il n'y avait pas de conversion sur ses nombreux centres et que Ousmane Dembélé, pour avoir des stats bien plus élevés, ben, le fait qu'il fasse une passe décisive ce soir, ben, j'espère que ça va le mettre en confiance pour la suite. Parce que comme je l'ai dit en début de saison, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, je lui demanderai jamais de mettre 20 buts par saison, c'est pas son profil. Par contre, c'est un joueur que j'aime beaucoup et envers qui je dois avoir de l'exigence. Et l'exigence que tu peux avoir envers Ousmane Dembélé, c'est lui demander de mettre 20 passes décisives cette saison. Il peut le faire, largement. Faudra juste un peu régler la mire, plus d'automatisme, mais je pense que c'est un objectif exigeant et réalisable le concernant. Et concernant les flops, nous on va être méchant, Carlos Soler. Non, je rigole. Ouais. Non. On va pas être méchant à ce point-là quand même. Ça serait un peu.
Non, là, ce serait méchant. Du bashing.
Non, bien sûr, c'est du bashing gratuit. Non, si je dirais de l'autre côté, on entend beaucoup une espèce de propagande autour de Unai du côté du PSG qui pourrait être le milieu qui pourrait apporter beaucoup au PSG. Bah, justement, c'est le genre de match où tu pouvais te permettre d'attendre des choses Unai pour voir s'il avait le niveau pour ce PSG-là. Et malheureusement, bah, j'ai pas vraiment apprécié le match de Unai personnellement. Mais je vais pas faire une fixette dessus non plus.
Ah, c'est dur pour sortir un joueur de l'OM là dans ce.
Non mais c'est ce que j'allais dire. C'est les joueurs de l'OM, c'était très compliqué aussi. Et c'est vrai que Unai, c'est pas comme s'il enchaînait les matchs et que du coup il était dans une confiance qui permettait de jouer ce match. C'est ça. C'est ce que je te dis. Il est pas non plus dans une confiance qui le permet. Mais Ouais, voilà, aussi, il faut dire ce qui est. Fabien le souligne bien, il a eu un client quand même au marquage, Unai. Et franchement, quand t'as pas joué pendant plusieurs matchs, t'arrives, c'est Ugarte qui te prend au
Même Zaïre
marquage.
Emery, hein, on n'en parle pas, mais il fait quand même un match
C'est vrai.
costaud au milieu. Hein, pour le
Mais tu
coup,
peux
il
le
a
mettre en
vraiment
mention.
bien joué.
Mais c'est ce que je dis, en fait, c'est ça
Ah,
le
mais de toute
problème.
façon,
Je
les 11
savais qu'on
joueurs,
aurait
de
des
toute
tops
façon.
différents. Et je me
Même
suis dit,
Donnarumma,
justement.
tu vois, il n'a rien à faire, mais en fait, je trouve qu'au pied, il progresse hein, petit à petit. Il fait une mauvaise relance en touche, là, à un moment donné, quand il est sous pression. Mais sinon, le reste du temps, ses relances sont beaucoup plus propres. C'est quand même beaucoup plus précis, ça va beaucoup plus vite. C'est dans le sens du jeu. Et voilà.
Ben alors, je vais regarder un peu s'il y a des petites choses intéressantes dans
Allez.
le chat auxquelles on peut répondre pour
Les gars, on est 700, il y a
clôturer
200
ce live.
likes là. N'hésitez pas à
Ah,
liker.
rappelez-vous qu'à 750 likes, on offre le flocage sur l'achat de votre maillot du Paris Saint-Germain. Si vous voulez faire floquer Ugarte, par exemple, ce serait dommage de rater cette opportunité. Je regarde justement parce qu'il y a ben, des questions, finalement, il y avait déjà les questions un peu étoilées auxquelles j'avais répondu. Mais peut-être qu'il y en a qui vont arriver justement dans le chat. Je vous laisse quelques secondes quand même. Ah, attends. Si. Regardez, on a un invité qui vient d'arriver et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la resta du soir. Itch est de retour parmi nous. Comment tu
Yo!
vas?
Oh, ça va les gars, j'ai attrapé froid dans la salle d'attente là. Mais
Ah
bon,
non,
ça
mais
vous fait
justement, je viens à
rien,
peine de
sinon.
voir ton message.
Non, c'est pas grave. Ça va les
Mais.
gars?
Ben justement, maintenant que
Ça
tu es
va,
là et vu
impeccable.
qu'on a eu un peu l'avis de tout le monde jusque-là, ben, je vais te
Sur les
poser les
top et
questions.
flop.
Ouais, les tops et flops et
Vas-y.
même tes avis sur le match. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce match? Qu'est-ce que tu aimerais voir que le PSG peut progresser? Ben, les questions que j'ai posées aux autres et que j'ai pas pu te poser du coup. Je te laisse
Ouais, là,
rattraper tout
ça
ça.
m'a interview combiné du coup, vu que j'ai un peu de retard.
T'inquiète, interview aux phases de combini.
Du coup, le match était intéressant. Depuis le début de saison, on est tous d'accord sur un point. C'est que parfois le PSG gagne, parfois le PSG fait match nul, parfois le PSG perd. Mais même dans ces configurations-là, on a toujours un style de jeu. On a toujours un style de jeu et on en prend plein les mirettes, plein les yeux, plein les eyes, ce que vous voulez. Et du coup, c'est assez plaisant à voir. Moi, dans ce match-là, il y a un truc que j'ai aimé énormément, qu'il n'y avait pas sous Pochettino, qu'il n'y avait pas sous Galtier, et qu'il n'y avait pas sous depuis très longtemps, c'est la gestion des côtés. Vraiment, la gestion des côtés, moi, je ne vois pas. Hein. Quand je vois quoi? Quand je vois Barcola qui renvoie la balle de l'autre côté pour Kolo Muani, Hakimi, et on voit un peu des coast to coast. Ouais, c'est bon, je suis libéré du sol, les gars. Ça y est, là, je suis en bas. Du coup, on voit des coast to coast comme en basket, hein. On voit des coast to coast sur le côté. Franchement, moi, j'ai trouvé ça agréable à voir. Du coup, le match d'Hakimi, mais ça, on en parlera dans les flops, naturellement. Ça fait combien de temps? J'ai dû faire peut-être une trentaine ou une quarantaine de débriefs ici. J'ai jamais pu sortir le maillot du Maroc, à part pour ce match-là. Le Lambris, c'est comment? Non, il a brûlé, les gars. J'ai oublié une prise. Mais enfin, bref. Du coup, les gars, le match, il fut super intéressant. Tonton parlait de l'apport d'un vrai 6. On a enfin Ugarte qui performe, Ugarte qui à un moment il fait un contrôle orienté sur notre surface qui remonte à 20 mètres de notre côté. Je suis désolé, Ugarte-Verratti, c'est vrai qu'il a remonté la balle. Ugarte sait le faire, mais en plus Ugarte est puissant. Ugarte est puissant, Ugarte tente, Ugarte c'est une vraie réussite dans ce Paris Saint-Germain. C'est vraiment une recrue phénoménale. Ugarte, c'est vraiment une recrue phénoménale. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'avec la sortie de Mbappé, les idées de jeu sont restées les mêmes. C'est-à-dire que parfois, quand tu perds un grand joueur de ton équipe, la tactique change. Là, Lucho, il a montré que c'est un grand coach parce qu'il s'est super bien adapté. Il a mis un 4-3-3 qui, en phase offensive, devenait un 3-3-4 avec quatre offensifs. Hein? Il a remis le carré magique en fait du Barça, hein, Thierry Henry, Zlatan, Messi et c'est qui le dernier les
Eto'o?
gars? Eto'o? C'était Eto'o.
Si, c'était Eto'o. C'était
Et
Eto'o,
voilà.
Ronaldinho, Henri, Messi, ouais.
Il a remis un quatuor et ça a marché fortement bien avec Barcola. Barcola qui a fait un top match aussi. Barcola, il a été phénoménal. Moi, j'ai beaucoup aimé la samba qu'a fait Barcola sur le côté. Mais franchement, c'était vraiment cool.
Justement,
Et du coup,
Hitch,
comment?
maintenant que tu es là, je viens
Oui.
de repenser à un truc tout bête. L'an dernier, tu nous avais parlé du Galtier Time, où on prenait systématiquement un but entre la 45e et la 60e. Cette année, non seulement le Lucho Time, on ne prend pas de but entre la 45e et la 60e, mais en plus, on marque.
On en met. Mais je vous avais parlé d'un autre truc aussi. Je vous avais
Je
parlé
te
d'un
laisse
autre truc.
continuer.
Je vous avais parlé d'un autre truc et je vais chercher la vidéo. C'était en avant-match. Hein? C'était pendant la CAN. On faisait quand même des vidéos. On faisait quand même
Oh
des
mon temps.
vidéos sur. comment se passe le recrue du PSG en Cannes et les recrues de Ligue 1. Bref, on retrouve la vidéo. Je vous ai dit, moi, je ne sais pas, mais personnellement, derrière Neymar ou Messi, en troisième tir, j'aurais peut-être mis Hakimi et pas Mbappé. J'aurais m'en dit, ouais, t'es un haut.
Évidemment.
Mais t'es malade. J'aurais dit, les gars, Hakimi, il a mis un doublé en coup franc. On n'a pas vu ça depuis Juninho. Il a mis deux buts sur coup franc. Deux buts. Il n'y a que Ward Prowse qui met ça en première ligue. Hein,
bien vu à Southampton. Enfin, non, il est à West Ham maintenant.
À West Ham. Aujourd'hui, il confirme. Hakimi, il se sent libéré. Je vous ai dit, Hakimi, il est en télétravail depuis deux ans. Depuis deux ans, il est en travail effectif avec déjà Di Maria. Di Maria qui, bah, Di Maria, c'est le pote à Messi, Di Maria. Hein. Alors, avec Messi. Messi qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas l'arabe, qui ne comprend pas l'espagnol marocain. C'est compliqué. On avait également Neymar. Neymar, il lâchait pas le ballon à Hakimi. Maintenant, on a un Hakimi qui est vraiment libéré parce qu'on a un Hakimi qui est dans le rôle de star. C'est-à-dire que dans ce PSG-là, on lui fait comprendre que c'est pas un faire-valoir, que c'est un rôle de star. Et Hakimi, il faut pas oublier que même quand il sous-performe au niveau du Paris Saint-Germain, dans le top latéraux mondiaux, il en fait partie. Aujourd'hui, il l'a prouvé, que ce soit offensivement, défensivement, ça a été un top match de sa part. Mais même si j'ai mis le maillot, même si je suis marocain, même si je suis un peu nationaliste, même si, pour moi, quand même, le monde du mal, ça reste quand même Colomani, parce que Colomani fait une top performance. Oui, c'est pas Hakimi.
Je l'aurais dit Hakimi, moi, tu vois, comme quoi.
Moi, je mettrais peut-être Colomani, parce que Colomani, c'est un but, tu le passes des. Et Colomani, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Hein, ouais, il joue en Timberland, on dirait qu'il joue en convert trop serré. Ouais, c'est quoi ces contrôles, c'est quoi ces poussées de balles. Mais Colomani, je l'ai trouvé très très bon. Colomani, sur le dernier but où on est quand même à la 85e, avoir le coffre de faire ça, remonter la balle et la passe décisive à Gonzalo Ramos, qui est son concurrent direct. Parce que c'est son concurrent direct, Gonzalo Ramos. C'est l'un des deux qui va jouer. Et moi, je suis désolé, on a une autre phase. On a d'autres équipes où deux nefs qui sont en concurrence, ils ne se font pas la passe. Moi, Colomani, il fait la passe à Gonzalo Ramos, il est plein de lucidité. Sur le poteau d'Hakimi, c'est vrai qu'Hakimi met un banger. Sur le poteau d'Hakimi, Colomani, il est là pour récupérer. C'est un but facile, mais quand même, il faut y aller. C'est Gonzalo Ramos qui a la place de Colomani, il ne l'a pas parce qu'il a un temps de retard. On voit bien que Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, balle au pied, il n'est pas très technique. On va pas dire le contraire. Mais. La course sans ballon, elle est phénoménale. Il est très rapide. Et on le voit, et c'est très. Le match de Colomani était très intéressant. Gonzalo Romano, ça a fait un bon match également, Ugarte également. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Colomani. Surtout, quand j'ai vu un moment Gigot. Moi, Gigot, je crois qu'il a eu des flashbacks. Parce que Gigot, Neymar, il devait sortir. Il arrive à faire sortir Neymar du match. Hein, il essaie de faire pareil avec Colomani. Il arrive juste avant un corner. Il met un coup d'épaule à Colomani. Moi j'ai lu parce que je suis un expert labial. J'ai lu. Colomani lui a dit, écoute, tu fais le malin, on va devant le 129. D'accord ? C'est là-bas que ça se passe ce soir. Gigot n'a pas bougé. Colomani, il est plein de personnalité. Et ça, il en faut de la personnalité. Il est conservé par le projet. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Mais même Hitch, par rapport à ce que tu dis.
Justement, Momo.
Par rapport à ce que tu dis, frérot. Quand Colomani s'embrouille avec Gigot. Tu parles, tu sais, de la concurrence saine entre Ramos et Colomani. Et c'est qui sort Colomani de l'embrouille avec Gigot et qui l'attrape, qui lui dit vas-y, c'est bon, laisse tomber, frère, autre chose. C'est Ramos. Et
alors qu'il aurait eu tout intérêt à le laisser péter un plomb, je suis d'accord avec toi.
Ça prouve, en fait, dans cette équipe, comment le groupe vit bien, comment le groupe est solidaire. C'est incroyable.
On le voit sur le but de Ramos, hein, Colomani, c'est limite le plus heureux quand on voit les images.
Bah, c'est lui le deuxième passeur pour Ramos. Hein.
La concurrence, elle est saine, la concurrence. Parce que quand même, ces deux attaquants qui sont quasiment du même niveau. Donc les gars,
ils sont plus complémentaires qu'opposables. Hein. Tu l'as vu ce soir.
Ils sont complémentaires dans une formation où il n'y a pas Mbappé.
Voilà. Voilà. On est d'accord.
Ils sont opposés. Du coup, peut-être que je ne sais pas la gestion du club, peut-être je ne sais pas la gestion d'Mbappé. Après, je ne vais pas commencer à dire oui, peut-être que le PSG il est mis sur Mbappé, parce qu'Mbappé, Mbappé, Général Lautin, etc. Je ne vais pas dire ça. Parce qu'on ne peut pas se baser sur un match. C'est vrai que c'est un classico, on est très content. Même si pour moi, la rivalité Paris-Marseille est le plus historique qu'actuelle, hein, je suis désolé. Mais bon, il n'y a pas de. Ça, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas se baser sur un match pour voir. Il faut se baser sur plus. Donc là, le PSG a. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le PSG a gagné sur Mbappé. C'est ça qu'il faut retenir. Et comme flop, parce que vous avez fait des flops, merci beaucoup, HS. Comme flop, moi, je n'en ai pas eu énormément. Parce que, quand même, quand tu gagnes 4-0, quand tu fais un pressing, quand tu fais un pressing vraiment haut et que tu vois le nombre d'actions qui a été annulé, je pense que tonton parlait de Unai. On n'a vu ni Unai, ni Harit, ni Aubameyang ce soir. On a vu, on n'a pas vu Rongier, on n'a pas vu Vertout, on n'en a vu quasiment aucun des offensifs de Marseille. Parce que le pressing haut était vraiment létal côté parisien. On était vraiment une équipe organisée. Et en flop, peut-être ce soir, moi, je mettrais peut-être un peu Dembélé. Parce que Dembélé, quand même.
Non, pas ce soir.
Oui, non, mais.
Moi-même qui adore Dembélé, je l'ai mis en flop dans les deux derniers matchs. Ce soir, tu peux pas.
Non, mais comment dire ? J'ai l'impression que Dembélé, il y a un peu trop peu. Il y a un peu trop peu. Il peut effacer. Il peut effacer. Mais il y a une justesse au niveau de la dernière passe. Parfois, qu'il pêche. Il pêche au niveau de la dernière passe. Dembélé, a fait combien de passes décisives depuis le début de la saison ?
Bah, une, mais c'est plus parce que les autres, ils ont raté. Regarde le match contre Dortmund. Si les attaquants, ils choquent pas ses passes, il peut faire 3 passes décisives le match dernier contre Dortmund.
Enfin, ce soir, il ouvre son compteur de passes décisives. Et c'est vrai, elle en fait une ce soir. Tu vois, et en plus, elle est magnifique sur Ramos. Tu vois, il le trouve parfaitement.
Oui, sur la tête, oui, c'est vrai.
Même les pénaltys que Mbappé met contre Dortmund, c'est lui qui fait le centre quand il y a la main de Zule.
J'adore Dembélé, mais tu vois, j'ai été très critique avec lui. C'est vrai qu'il manquait de justesse dans les 30 derniers mètres. Et je trouve que ce soir, il a été très juste. Et même, tu vois, il a permis aussi, par rapport à son jeu sans ballon, d'ouvrir énormément d'espace pour Achraf. Donc, en fait,
non, mais la doublette avec Hakimi aussi, la complémentarité était super intéressante.
Les pivots étaient bons. Moi, je mets Dembélé en tant que flop parce que déjà, il faut en mettre un. Sinon, je peux en mettre aucun. C'est pas vrai. Ça vient au
non, on en a mis aucun.
Non, bien sûr.
Mais Dembélé, j'attends quand même de lui, quand Mbappé est blessé, j'attends que Dembélé, vraiment, il porte cette équipe, mais pas que dans le jeu sans ballon, dans le jeu aussi avec ballon. On parle quand même que Dembélé, c'est un joueur qui était quand même sous-capitaine du Barça. C'est un joueur quand même qui, en forme, a porté le Barça. Il n'a pas encore eu ce match référence avec le PSG. Et ça, ce match référence avec le PSG, on sort du match, on dit oh Dembélé, oh là 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 là, mais Dembélé, mais lui, c'est un top joueur. On se rappelle quand même que Dembélé, on comparait Dembélé à Mbappé à une certaine période. On disait oui,
on l'a connu avant déjà.
Il est plus technique, mais il n'a pas le plus football, c'est ça qui lui manque. Et moi, j'attends que Dembélé, il passe ce cap. Et avec le Paris Saint-Germain, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas encore vraiment passer ce cap.
Alors, que tu me dis ça, ouais, ça je te rejoins, qu'il n'ait pas encore fait une top performance qui te permet de dire ouais, Ousmane Dembélé est incroyable, mais ce soir, je ne mettrai pas en flop. Je te trouve dur.
Je suis sur Martin. Je suis quand même sur Martin parce que j'attends tellement plus de Dembélé. Parce que Dembélé, quand même.
Ça, oui.
C'est peut-être l'un des meilleurs ailiers droits actuels au monde. L'un des meilleurs, peut-être top 10.
Ouais, mais la complémentarité avec Hakimi ce soir, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, tu vois, genre Di Maria et Messi, en deux ans, ils n'ont jamais été aussi complémentaires avec Dembélé sur ce match. Hein.
Mais moi, c'est même après, ils arrivent à combiner quand même.
J'ai préféré quand même le match de Barcola qu'à celui-là.
Non, mais voilà, t'as le droit. Après, voilà, t'as le droit de me dire qu'il y a d'autres joueurs que t'as préférés. Ça, avec grand plaisir.
En fait, c'est totalement différent. Je trouve qu'en fait, les opposés, c'est dommage parce que tu vois, t'as cette relation en fait, Dembélé et Hakimi à droite, où il y a vraiment cette relation à deux qui est créée par le coach. Et tu vois, côté gauche, en fait, que Barcola, quand il est trouvé, étant donné qu'Hernandez reste en défense centrale, Barcola est trouvé vraiment dans cette position de 1 contre 1 pour fixer et éventuellement soit éliminer, soit pour centrer. Parce que Barcola, par exemple, sur les 10 premières minutes, il trouve 2-3 fois l'intérieur dans la surface, des joueurs hyper bien positionnés, dont Mbappé 2 fois, qui tu vois, en fait, je trouve que c'est difficile de les opposer parce que, en fait, j'ai l'impression aussi que quand Nuno Mendes va rentrer, ça, je change totalement de sujet, mais en restant. Barcola, le rôle de Barcola ce soir était un rôle que Nuno Mendes peut avoir, mais sur un plan un poil plus défensif. C'est-à-dire que Barcola, regardez le nombre de courses à très haute intensité qu'il a dû faire pour combler un petit peu en tant que piston gauche très offensif. Et en sachant que Nuno Mendes...
Même si avait Barcola beaucoup plus bas que Dembélé, hein, Dembélé
collait la ligne beaucoup plus. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand je vois dans les commentaires certains qui parlent de 4-2-4, est-ce que c'est viable, etc. Moi, je le dis honnêtement. C'est exactement la même chose que ce qui se passe avec Manchester City l'année dernière sous Guardiola. C'est-à-dire un Walker qui était beaucoup moins offensif et qui rentrait dans cette défense avec les deux autres centraux et qui à gauche en fait était vraiment bien plus offensif par rapport. C'était comment il s'appelle?
Tu parles du moment où City est passé en 3-2-4-1.
Ouais, comment il s'appelle putain celui qui
Grealish.
Voilà, à droite, Grealish qui jouait
à gauche, Grealish à droite, t'avais Bernardo.
À droite, t'avais Bernardo. T'avais Walker qui était normalement latéral droit et qui rentrait en tant que défenseur central. Et Stones qui montait d'un. En fait, c'est un système plus ou moins similaire. Et c'est l'animation qui change en fonction des profils qu'on a sur le terrain. Et ça me plaît parce que je trouve vraiment que tactiquement, il y avait certains qui disaient ouais, c'est bon, je veux pas de Luis Enrique, on va jouer au handball. Putain, franchement, depuis le début de la saison, j'en ai pas vu beaucoup des matchs de handball.
À part contre Lorient, mais voilà.
Et en plus, il faut rajouter que Barcola, il était très souvent. très souvent en situation de 2 contre 1 avec Klose qui redescendait et Mbemba. Il était très souvent en situation de 2 contre 1 et il passait en fait. C'est pas facile de passer en 2 contre 1. Et c'est pour ça que quand même, il faut quand même souligner ça. Après, franchement, je pense que vraiment la pièce qui manque dans cette équipe, c'est un Nuno Mendes. Nuno Mendes, il va revenir bientôt. Et du coup, je pense que ça va péter. Hein. Ça va péter parce que du coup, on a Hakimi qui pourra monter, mais également Nuno Mendes. Après, là où il faudra faire attention, c'est sur le repli défensif.
Là, tu as mis une question super intéressante en vrai tactiquement, avec l'utilisation de Barcola ce soir. Est-ce que finalement, pour ne pas conserver son équilibre, Nuno Mendes, il ne va pas prendre la place de Barcola ce soir et tu conserves Hernandez en arrière-gauche?
Si, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein.
Parce que si tu fais ça, tu peux exploiter Hernandez et Nuno Mendes.
Je pense qu'il peut y avoir tellement de solutions. Il y a tellement de solutions possibles, les gars, qu'aujourd'hui, Luis Enrique, c'est un entraîneur.
Le casse-tête, c'est qui tu fais jouer titulaire au prochain match offensivement, déjà.
Il peut même enlever un défenseur central, parce que moi, je considère Hernandez comme un défenseur central maintenant, pour mettre et Nuno Mendes et Hakimi, en fait, aujourd'hui. Et j'insiste sur ce que. En fait, moi, je me fie sur le discours de Luis Enrique. Et ce discours-là, il ne l'a pas eu qu'au PSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Luis Enrique préfère gagner un match 5-4. Que 1-0.
Et aujourd'hui, Kev, en fait, c'est Lucas que t'enlèves forcément, toi, de la défense centrale. Moi, j'enlève Skriniar et je mets Marquinhos dans l'axe avec Lucas Hernandez.
Bien sûr. Non, mais je te dis parce que Lucas, quand j'ai dit Lucas, je disais que c'est un troisième défenseur central. Donc, j'ai dit, il en enlèvera un des trois. Mais
ça, on l'avait pas l'an dernier, Ivory, le mal de crâne. Ça, je te rejoins.
Ouais, ça, c'est clair. Mais moi, je maintiens que on peut pas jouer à 4 derrière avec en latéral. Hakimi en latéral, Nuno Mendes. Parce que ces deux ailiers à profil offensif. Si Hakimi monte, tu peux dire Nuno Mendes va compenser. Et si Nuno Mendes monte, Hakimi peut compenser. Mais Hakimi comme Nuno Mendes, les deux, ils ont exactement le même profil. En 1 contre 1 défensif, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et c'est pas ce qu'on leur demande, en fait. Les deux, c'est des pistons. Moi, je pense qu'à 3 derrière, ils ont quand même une liberté offensive. Une liberté offensive qu'ils peuvent gêner les relances au milieu de terrain, voire défendre un peu plus bas, mais également se projeter offensivement. Et du coup, c'est ça qui va faire la différence. Mais je pense sincèrement que si tu joues à 4 derrière, Lucas Hernandez doit rester latéral. Tu ne peux pas jouer à 4 derrière avec deux latérales super offensifs.
Moi, je suis pas d'accord. Parce que si tu as Lucas Hernandez, Marquinhos et Skriniar, t'es 9 dans l'équipe d'en face, je te souhaite bonne chance.
Mais d'accord, mais à 3. Du coup, t'as à 3. Mais
non,
à 4 derrière.
Non, regarde, c'est un 4-3-3. C'est un 4-3-3, sauf que Ugarte, c'est le 6. Et t'as Marquinhos et Lucas Hernandez en dessous. T'as ton équilibre, donc tu gardes ta base de 3 quand il faut. Tu te prives
d'un Ugarte qui défend haut et qui, au contre-pressing, est déjà en train de presser le 6.
Et ça, tu peux aussi travailler dans le sens où, quand tu travailles d'un côté gauche, bah Kimi il va pas monter aussi en même temps. Tu peux lui demander genre si à l'intérieur qui monte, l'autre il équilibre, tu vois.
Après, je pense que tout est possible. La meilleure version du Barça de Luis Enrique, les gars, c'était Daniel Alves Prime et Jordi Alba Prime sur les côtés. Donc je pense qu'en fait rien n'est incompatible. Ça va être aussi par rapport au profil d'équipe qu'on va affronter. C'est-à-dire que concrètement, en fait, on a une équipe qui est capable de jouer de la possession et d'aller chercher des ballons très haut. Tout comme on a une équipe qui est capable d'en transition. Je pense en transition, on a la meilleure équipe du monde, concrètement. Avec la vitesse de nos attaquants dans le dos des défenseurs, je pense que, franchement, et la qualité de nos latéraux pour dédoubler et de prendre. Honnêtement, je vois contre Lens, on a quand même joué relativement bas. Contre Lyon, on a joué relativement bas. Et à chaque fois, c'est deux top scores. Contre Marseille, on a joué très haut, gros score. Contre Dortmund, on a joué haut, 2-0. Et encore, ça doit faire bien plus. Donc, en fait, on a vraiment. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on a tout un tas de schémas qui sont possibles, que ce soit sur un bloc bas, sur un bloc médian, sur un bloc haut, sur du contre-pressing, sur de la transition rapide. Moi, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Tout est possible. Et Luis Enrique est un tacticien vraiment moderne et qui est capable, en fait, de mettre en œuvre par rapport à l'adversaire. Il l'a fait plusieurs fois. Et moi, je pense qu'on se prend la tête, mais je pense que Luis Enrique se prend la tête aussi quand tout le monde va être de retour.
Non, bien sûr.
En tout cas, sur ces belles paroles, on a fait quand même 45 minutes de débrief. C'est un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu à l'initial. Merci à Hitch d'avoir été avec nous ce soir en espérant qu'il sera là souvent cette saison pour nous amener sa bonne humeur, surtout si Hakimi fait souvent des matchs comme celui-là, en espérant que Rekoba également revienne régulièrement, tout comme Kevzor. Merci à tous en tout cas, je vois qu'on était 677 en live, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, plus vous en mettrez, plus vous vous rapprochez du flocage et d'être dans la possibilité de récupérer un flocage gratuit, peut-être de Ugarte, peut-être de Warren, de qui vous voulez en fait. Le flocage est offert, vous floquerez qui vous voulez. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner également pour développer la chaîne au maximum.
Petit pouce bleu,
bonne
évidemment.
Bonne soirée à
petit
tous.
Pouce bleu, référencement, tout ça, et vous connaissez
pas,
les amis.
N'oubliez pas également d'aller vous abonner aux chaînes incroyables des débriefs de Hitch et de Recoba. Et si vous voulez du foot aussi généraliste, j'ai aussi une chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Le port salut, c'est du fromage, je te rassure, Hitch. Mais bonne soirée à tous et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
C'est Paris. Ciao.
Salut, Hitch.